Serge Bradet, on va parler du café Saint-Jean. C'est un café plus que centenaire à Sherbrooke.
Oui, exactement. C'est dans la revue Nostalgie, le numéro 16 en 2024, un article de Robert Laplante. Alors, parmi les plus beaux secrets de Sherbrooke, il y a le café Hubert Saint-Jean. Oh. Un café centenaire parmi les premiers au Québec, situé au 455 rue King West. Un secret bien gardé? Peut-être pour nous, mais pas pour les Sherbrookois qui le connaissent depuis toujours. Normal, avec 100 ans d'existence de ce commerce qui a initié des gens au plaisir du café. Au plaisir du café, oui, mais aussi du thé et des épices. Parce que, vous avez bien lu, thé et épices, on en trouvait aussi autrefois dans ce café-là. Ça peut paraître étrange aujourd'hui, mais à l'époque, c'était courant de voir des commerces qui offraient café, thé et épices, explique le copropriétaire et grand passionné de café devant l'Éternel, Marc-Antoine Crépeau. C'était des produits d'importation plus coûteux qu'on pouvait vendre en vrac. Comme les quantités vendues étaient moins importantes, les propriétaires devaient proposer à leur clientèle une diversité de produits. D'où la surprenante combinaison café, thé et épices. Aujourd'hui, c'est normal. Dans les boutiques, on trouve pas mal... on prend les café, thé et épices.
Oui, à l'extérieur des grandes chaînes, là, oui.
Oui,
ouais, 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 c'est vrai.
Une stratégie commerciale peut être aussi due à la discrète popularité du café en 1923. Nous ne le consommions pas de la même façon qu'en Europe. Ici, c'était plus une boisson pour se réchauffer. Ce qu'on offrait était simple, des cafés moins corsés, souvent faits au percolateur. Hubert Saint-Jean a donc dû, comme ses concurrents, sensibiliser sa clientèle à la richesse d'un bon café. Une tâche énorme qui aurait pu en faire reculer plus d'un. D'autant plus qu'avant l'ouverture de son entreprise, Hubert Saint-Jean travaillait dans le secteur de l'huile, un domaine où il recevait un bon salaire, il était bien payé. La raison pour laquelle il a décidé de l'ouvrir reste obscure. Son fils Michel nous a affirmé qu'il en avait marre de travailler pour des patrons anglais. Bon. Une opportunité s'est présentée et il a relevé le défi. Institution à Sherbrooke, le café n'a pas toujours été à la hauteur de son importance historique. Pendant une dizaine d'années, de 2008 à 2018, le sympathique établissement a manqué un peu d'amour. C'est qu'en 2008, Michel Saint-Jean, qui avait repris le café de son père, a décidé de prendre sa retraite, le laissant entre les mains de repreneurs qui n'ont pas su lui témoigner le respect qu'il méritait. C'est ici qu'arrive l'ancien barista Marc-Antoine Crépeau et son associé Rémi Tremblay, qui à leur tour reprennent l'institution en 2018 et décident de lui redonner son lustre d'antan. Pour nous, il était essentiel de renouer avec son histoire et avec l'esprit que son fondateur lui avait insufflé, fait savoir Marc-Antoine Crépeau. Mais comment renouer avec le passé et l'esprit du café quand il existe peu d'artefacts sur lui? Une tâche d'autant plus compliquée que Marc-Antoine Crépeau n'est pas natif de la reine des Cantons de l'Est. Il y est venu pour ses études collégiales et universitaires et ne connaissait pas son importance historique. On n'avait pas beaucoup d'archives et de photos sur le café et sur M. Saint-Jean. Une chance, son fils Michel nous a aidés et en nous en parlant beaucoup. On a essayé de garder l'esprit du café dans le décor et dans la qualité des produits offerts, sauf pour les épices et le thé qui ont disparu de l'offre. Et ils se sont concentrés sur le café. Hubert Saint-Jean avait une expertise dans ce domaine que nous n'avions pas. Le café est déjà un univers en soi et on s'est concentré sur lui. Si le spectre d'Hubert Saint-Jean flotte toujours dans la boutique du 455 rue King West, il n'est pas là en totalité. Un peu comme les fantômes du Forum, qui n'ont pas tous déménagé au Centre Bell, celui d'Hubert Saint-Jean est resté en partie à son ancienne adresse, au 1627 King West. On a dû la sacrifier, et là, on ne fait plus la torréfaction sur place. On a dû la sacrifier pour avoir plus d'espace. Une des particularités du café Hubert Saint-Jean, c'était qu'elle se faisait sur place. Alors, on n'a plus malheureusement les odeurs de la torréfaction qui l'embaumait depuis presque un centenaire. Et alors, quand on rentre dans un endroit où ils font la torréfaction, le monde dit que ça sent bon.
C'est un ça bonheur. Sent la vie. Oui. Ah, ça nous réveille.
Oui. Ouais. Ce qui ne nous empêche pas de humer, en imagination du moins, et dès notre première gorgée, toutes les bonnes odeurs de presque 100 ans de torréfaction. Et qui sait, peut-être même d'apercevoir le fantôme d'Hubert Saint-Jean, heureux de nous voir savourer ses cafés. Et en complément, un petit article, une boisson prisée au Québec, depuis quand même un bon bout de temps.
Ah.
Oui, ça fait longtemps qu'on boit du café au Québec. En fait, depuis le tournant du 18e siècle. En 1753, par exemple, Louis Franquet, un émissaire envoyé en Nouvelle-France pour évaluer l'état des fortifications de Louisbourg, Québec, Montréal, Trois-Rivières. On se rappelle que la guerre de 7 ans s'en venait, alors on venait vérifier l'état de la défense. Alors, il rapporte avoir siroté un café lors d'un souper organisé par Mme Pierre Rigaud, belle-sœur du gouverneur général Pierre de Rigaud, dans son domicile trifluvien. Sans doute que Louis Franquet, comme les autres convives du souper et les habitants de la Nouvelle-France, avait bu un café, noir ou avec du lait, provenant des Antilles françaises. À moins que ce ne soit de l'île Bourbon, l'ancien nom de la Réunion, disponible dans la colonie depuis 1748. Quand même, on avait ça depuis longtemps, le café. Si Mme Rigaud pouvait offrir du café à ses invités, c'est qu'elle en avait les moyens. Importé par navire, le café était une denrée de luxe au même titre que les épices. Une denrée d'autant plus luxueuse qu'on en cultivait peu. Au cours de l'année 1750, il s'est produit, retenez le nombre, 600 000 sacs de café dans le monde. 600 000 sacs en 1750.
Ça, je pense que c'est ma consommation annuelle, non?
Et aujourd'hui, risqueriez-vous un chiffre?
Non.
Le nombre de sacs?
3 milliards.
Ah ben non, wow.
Ah, ça, c'est Mathieu qui s'est risqué. Moi, je ne me risque pas.
On parle de 144 millions de sacs annuellement.
Moi, ça en prend du lait,
ben,
ça.
C'est beau.
Ça en prend du lait puis du sucre.
Oui. Et pour ce qui est du café de Mme Rigaud, on ne saura jamais s'il était bon ou non. Mais gageons qu'au prix qu'il coûtait, chaque tasse devait être appréciée. Est-ce que j'aurai encore le temps?
Ah
pour...
oui, on a encore le temps.
Albert-Louis Vanhoute, pionnier du café.
Ah
oui. Eh oui.
Ouais, c'est un nom qu'on voit, me semble, quelque part sur certaines chaînes.
Oui, très populaire.
Ouais.
Alors, on a tous vu un jour le visage rassurant de M. Vanhoute dans un des établissements qui porte son nom ou sur un des sacs de café que ces derniers proposent. Mais on sait moins qu'il a joué un rôle déterminant dans le développement de nos papilles gustatives en matière de café.
Ah bon?
Albert-Louis Vanhoute s'installe au Québec en 1912 avec l'intention de faire carrière dans l'importation de chevaux. Eh oui, on est loin du café.
Tout un changement de carrière, ça. Hein?
Malheureusement, la Première Guerre mondiale met fin à ses rêves. Le Tourquenois n'a pas de choix. Il doit se tourner vers d'autres activités pour gagner sa vie. Et pourquoi pas le commerce de produits alimentaires importés. Alors, une idée d'autant plus intéressante qu'une boutique semblable est à vendre au 321 Ontario-Est à Montréal. Le propriétaire, Camille Husseneau, désire prendre sa retraite. Et comme il n'a pas de relève, Albert-Louis devient... le repreneur rêvé. Mm. Véritable caverne d'Alibaba, on y trouve de tout, notamment des produits européens, de l'eau de Vichy, de l'huile d'olive, du foie gras, des vins, des épices, des asperges, des champignons, du savon de Marseille, de la vanille, du thé et bien entendu du café. À cette offre, M. Vanhoute ajoute des biscuits belges et hollandais, du chocolat Côte d'Or, des ustensiles de cuisine de France, du vinaigre de vin, des huiles, des moutardes, des marrons, etc. Hey, ça devait être de faire une belle épicerie. Des petits trésors qui, combinés à l'excellent service, séduisent une clientèle de plus en plus nombreuse. Et son épicerie marche tellement bien que dans les années 1930, il ouvre une succursale à Québec. Toutefois, il aime moins le café qu'il offre. Il a beau en parler à son torréfacteur externe, ce dernier ne réussit jamais à atteindre le goût et la couleur des cafés du vieux continent. Il décide alors de torréfier lui-même ses grains dans son arrière-boutique et de proposer à ses clients son fameux mélange maison. Le succès est au rendez-vous et le reste fait partie de l'histoire.
C'est drôle, moi, mes parents buvaient du thé. Du thé le matin.
Oui,
ouais, c'était traditionnel. Et c'est fou, moi, c'est le café. Mais on dirait qu'en vieillissant, le café, on est plus exigeant.
Hein? Oui,
on a un bon espresso. Là,
Une fois qu'on a goûté à un vrai café,
ouais,
on n'est plus capable des cafés en grains après. Là, en, en, en sachet. Là,
du... Et je vais vous faire une confidence, tout le monde. Je ne bois pas le café qui est fait ici à Canalem. Je suis incapable. C'est chacun ses goûts. Hein.
Oui, chacun ses goûts.
C'est ça. Je préfère un café un petit peu plus fort, un bon espresso. Ça réveille un peu
plus. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on vend des machines pour faire le café chez soi. Là, incroyable. Là.
Avec les capsules, là, c'est assez extraordinaire parce que ça s'apparente à un très, très bon café.
J'ai un cousin qui finit, il a travaillé une quarantaine d'années pour une organisation, et on lui a offert un truc de café, c'est 3 000 $. Écoute, ouais. J'ai vu ça l'autre jour avec les pressions ajustables pour le lait, l'eau puis le lait.
Ah, ça rend fou. Allez, on va prendre une petite pause et on continue cette chronique après, donc dans 2 minutes.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bon, Mathieu, mes plus plates excuses, je sais que c'est toi qui fais le café.
Je ne prends pas personnel, là. C'est chacun ses goûts.
Ben, le café, c'est comme le vin. C'est comme beaucoup, beaucoup de produits. Hein. C'est vraiment une question de papilles gustatives et c'est vraiment chacun son goût. C'est ça.
Tu sais que Mathieu peut faire des représailles, hein? Ouais. Un micro, c'est facile.
Oui, ça peut se faire. Oui, ça peut se faire. Allons-y maintenant avec les dragées de Verdun.
Oui, aimez-vous les dragées? En avez-vous déjà mangé?
Oui. on tombe encore dans des choses de goût. Oui, c'est sûr.
Mathieu, les dragées?
Je suis pas certain, en fait.
Non? Ça ressemble à ça, les petites dragées, là, sur la... Je sais pas si tu vois, là.
Oui, je vois les images, mais... On dirait des galets.
Alors, c'est un article de Véronique Dumas dans une revue que j'ai depuis un grand bout de temps, un historien qui s'appelle De quand ça date, et c'était publié en 2012.
Ah,
et je garde ça précieusement, il y a un tas de regarde l'épaisseur de ça, là. Il y a tous des petits articles intéressants sur De quand ça date.
La question, par contre, c'est où est-ce que tu ranges tout ça chez toi?
Ce que je fais, je garde pas tout, là.
Ben, ça prend de la place, tout ça, là.
Non, j'ai ma petite pile pour Vues et Voix.
Ouais.
Puis une fois que j'ai lu les revues, je les refile à une amie. Quand elle me les remet, je les refile à un couple d'amis.
Bon.
Puis quand c'est fait, je les refile à leur fils.
On est vraiment dans le recyclage.
Puis après ça, ça s'en va en tout dernier à la résidence où demeurait ma tante en ces derniers jours. Puis les messieurs, madame, surtout les madames sont bien, bien contentes d'avoir
bon.
Ça.
Bon, alors allons-y avec les dragées.
Cette gourmandise romaine, figurez-vous, symbole de partage des moments heureux, gagne très vite la France. Dès le 13e siècle, Verdun en devient la capitale incontestée.
Verdun?
Oui, et d'ailleurs, c'est les dragées de Verdun qui sont les plus connues. La dragée, du latin tragemata, friandise, cette amande enrobée de sucre serait née de l'étourderie d'un confiseur romain. Souvent, il y a quelque chose qui arrive, qu'on invente, c'est un accident.
Mm-hmm.
On pourrait dire
la même chose, je t'ai pas dit du Viagra. Bon, OK, on continue.
Oui,
ben, c'est arrivé par accident.
Oui, absolument. Oui, c'est pour les cheveux.
En fait, non, c'était pour le cœur. Et ils se sont rendus compte que les personnes qui prenaient ce médicament-là avaient tout à coup de nouvelles prouesses en bas de la ceinture. Ouais.
Mais aussi, ça faisait pousser les cheveux.
Non, c'est un autre produit qui fait pousser les cheveux, oui.
OK. Vers 170 avant Jésus-Christ, Julius Dragatus, aurait laissé tomber une amande dans une jarre de miel. Le résultat de cette heureuse maladresse, vite perfectionnée par son inventeur, va plaire au-delà de toute espérance. Constituées d'amandes, de noix et d'épices enrobées de miel, elles sont offertes aux invités lors des cérémonies officielles ou privées, à l'occasion des naissances et des mariages. Les voilà déjà symboles du partage des moments les plus heureux de l'existence. Au Moyen Âge, les croisés rapportent d'Orient un ingrédient plus précieux que le miel, le sucre de canne. Son utilisation dans la confection des dragées va leur donner une apparence lisse, assez proche de nos sucreries modernes. Elles sont fabriquées par les apothicaires, seuls autorisés à faire le commerce du sucre.
C'est bizarre.
Les dragées, qui peuvent être constituées de graines ou de fruits confits enrobés de miel, sont aussi nommées épices de bouche et sont prescrites pour faciliter la digestion et rafraîchir la laine. Depuis le 13e siècle, elles ont leur capitale, Verdun, en Lorraine. Les apothicaires de la ville vont se spécialiser dans leur fabrication. La recette d'origine est faite à base de graines d'anis vert enrobées de sucre. On les recommande notamment aux femmes enceintes pour mener à bien leur grossesse et aux accouchés. Sans doute, en offre-t-elle aussi à leurs visiteurs. Ainsi serait née l'habitude de distribuer des dragées au baptême. Grâce aux bateliers, la spécialité de Verdun se fait connaître en Hollande, puis se répand jusqu'à Constantinople et en Russie. Les magistrats de la cité offrent des dragées aux visiteurs de marque et aux membres de la famille royale. En 1574, Henri III en reçoit à l'occasion de son sacre. Et en 1603, Henri IV, de passage à Verdun, se voit offrir des dragées. La tradition est encore respectée par les élus verdunois aujourd'hui. Un drageoir frappé des armes de Verdun est toujours offert au chef d'État rendant visite aux élus de la ville meusienne. À Versailles, sous le règne du roi Soleil, les dragées font fureur et forment l'essentiel des épices de chambre toujours à disposition. On les place dans des vases d'or et d'argent appelés drageoires. Mais il en existe de plus petits que l'on porte à la ceinture, comme le font les ducs de Lorraine présents à la cour depuis le 16e siècle. Ils ont coutume d'en distribuer aux courtisans, contribuant ainsi à leur diffusion. Et en 1777, une ordonnance royale interdit le commerce du sucre aux apothicaires. La confection des dragées devient alors l'apanage des confiseurs qui élargiront sans fin jusqu'à nos jours la palette des parfums. Il est toujours d'usage, à la sortie de l'église, de lancer des dragées, en France, au-dessus des mariés, pour leur porter chance et bonheur, et d'en offrir aux invités lors d'un mariage ou d'un baptême. L'amertume de l'amande, mêlée à la douceur du sucre, symbolise les joies et les peines de la vie. Pour un mariage, leur nombre doit être impair pour symboliser l'indivisibilité de l'union. On en offre généralement cinq, une pour chaque vœu adressé au marié. Fécondité, félicité, prospérité, santé et longévité. Et voilà.
Et voilà. Alors, j'allais dire tout à l'heure que les dragées, c'était aussi... à cette époque, on avait une autre façon de... une autre technique ou une autre procédure ou une autre hygiène qu'on avait présentement. Et bon, les dragées, ça pouvait changer la laine, j'imagine. Mm-hmm. Alors, on va aller au mot croisé.
Oui. Et d'ailleurs, petite anecdote, dans la série, magnifique série sur les rois de France là, de Maurice Druon,
oui, oui.
Il y avait la méchante comtesse Mao d'Artois qui, à un moment donné, elle avait un compte à régler avec le roi de France, et elle est allée visiter une tapisserie dans sa chambre, et il était fou des dragées. Il en mangeait tous les soirs en se couchant. Et elle avait mis une dragée empoisonnée dans le petit bocal. Évidemment, il l'a mangé un soir, puis il est mort.
Ah, c'est la faute de la dragée. Et on n'a pas beaucoup de temps, on va aller aux mots croisés.
Les mots croisés.
Ça date de quand, oui.
Oui, cette invention britannique traverse la Manche en 1924 sous le nom de mosaïque mystérieuse. Depuis, cruciverbistes et verbicrucistes font allègrement fonctionner les neurones. C'est un article de Charles Giol.
Et il faut dire que les cruciverbistes, ce sont ceux qui remplissent les mots croisés, puis les verbicrucistes, c'est ceux qui les créent.
Oui. Mmh. Voilà. Si, depuis l'Antiquité, on s'est souvent amusé à croiser les mots autour de leurs lettres communes, comme le savent bien les épigraphistes spécialistes des gravures romaines, il fallait penser à faire deviner des mots aussi associés aux moyens de définition pour accoucher des grilles de mots croisés. C'est à Arthur Wayne, un Britannique qui s'installe au début du 20e siècle aux États-Unis, où il se partage entre le journalisme et la pratique du violon, que revient ce mérite. Le 21 décembre 1913, il publie la toute première grille de mots croisés de l'histoire dans l'édition dominicale du journal The New York World, qui cherchait des idées nouvelles pour sa page consacrée au divertissement. L'objet, qui a la forme d'un losange, vide en son centre, baptisé World Cross Puzzle, est d'apparence bien modeste. Wayne n'a pu agencer que des mots de 3 ou 4 lettres, ce qui rend l'exercice dérisoirement facile. Malgré les doutes de son rédacteur en chef, le journaliste croit en son invention. Chaque dimanche, il soumet une nouvelle grille au lecteur du World. Bientôt, il a l'idée d'introduire des cases noires, ce qui lui permet d'échafauder des grilles rectangulaires et des grilles... j'ai perdu mon... formées d'un mot plus long. Et son crossword, l'appellation finalement consacrée suite à l'intervention d'un typographe inattentif, est vite copié par la concurrence. Hein. Les autres journaux s'en emparent. Dans les années 20, les bibliothécaires américains se plaignent ainsi de recevoir des visiteurs un brin turbulent qui arrachent les dictionnaires et les encyclopédies des mains des habitués. Rien ne résiste à la fièvre de cruciverbis à la recherche d'un mot. Et, malgré les réserves de nombreux observateurs qui voient dans cette nouvelle occupation une pure perte de temps, voire une activité puérile, selon les pasteurs américains. Toujours les pasteurs, hein? Et le phénomène est lancé, qui atteint vite le reste du monde occidental. Et au début de la Seconde Guerre mondiale, le New York Times et le Times de Londres, qui se sont longtemps fait une gloire de résister à la mode, finissent par succomber l'un après l'autre. Il faut dire qu'en Grande-Bretagne, écoutez, la princesse Mary, fille du roi George V et grande-tante de la reine Élisabeth II, elle-même s'est prise de passion pour les mots croisés. Ah, ce n'est pas rien. Et en France, les tout premiers mots croisés sont publiés en novembre 1924 par l'hebdomadaire familial Dimanche Illustré sous l'appellation de « Mosaïque mystérieuse » avant d'être adopté par tous les quotidiens. Et vous avez le dramaturge Tristan Bernard, l'un des premiers convertis, écrit bientôt que le mot croisé est une thérapeutique à l'anxiété contemporaine. Mm-hmm. Il se fait même verbicruciste, c'est-à-dire auteur de mots croisés, mais ses recueils de grilles ne remportent pas un grand succès, bien qu'il soit le premier en France à introduire un humour raffiné dans les définitions. Alors, c'est ça, c'était l'origine du mot croisé. Petit mot croisé.
Eh bien, je penserai à ça quand je ferai ma prochaine grille.
Moi, je l'ai fait tous les jours.
Je suis Crusoe Verbe.
Dans la presse plus.
Merci beaucoup, Serge Vadette.